La Semaine Sainte, puis Pâques, que vivent les chrétiens, c'est une sorte d'ascenseur émotionnel, ou plutôt une grande roue. Enfin, je l'ai vécu comme ça, avec ce point culminant du Vendredi Saint où l'on pleure en écoutant cette passion, ce récit déchirant de la mort du Christ. Et puis voilà que 48 heures après, on dit « Alléluia, on est joyeux, vive la vie ». C'est quand même assez étonnant cette manière avec laquelle le croyant est ballotté dans cette histoire des sentiments les plus sombres aux sentiments les plus joyeux. Bien, finalement, je pense que cette semaine synthétise un peu le fond de la vie humaine, parce que la vie de chacun à tout âge, par-delà des tas de moments sans importance, en fait, nous sommes tous promener des plus grandes joies aux plus grandes tristesses. Et pas simplement pour les gens mûrs, dirais-je. Même un enfant tout petit peut passer du rire aux larmes. Il est dans le jeu et puis il peut être contrarié parce que ses parents répondent pas à ses demandes. L'adolescence peut être un moment extraordinairement enthousiasmant, mais en même temps, combien il est difficile d'accéder à une vie nouvelle. Et les jeunes eux-mêmes peuvent être enthousiastes d'être amoureux, d'avoir des projets, mais en même temps, quelle angoisse, incertitude de se dire, mais quelle sera ma vie? Est-ce que je vais me marier ou non? Avec qui? Quoi? Quel métier? Comment? Enfin, c'est compliqué. Et quand on est adulte, on peut vivre les plus grandes joies peut-être d'avoir un enfant, mais aussi les plus grandes peines de voir mourir ses proches. Et le grand âge n'est pas plus calme, hein, avec la satisfaction profonde de transmettre d'une certaine sagesse et en même temps l'angoisse de la vieillesse ou de la mort. Bref, toute notre vie est faite comme ça, des plus grandes joies et des plus grandes tristesses. Et si on ne veut pas ça, il ne faut pas vivre. Mais en fait, donc cette Semaine Sainte est à l'image de ça. Et je me dis, mais peut-être qu'elle nous invite à revisiter justement toute cette espèce de désordre, de sentiments excessifs, et nous permet de le remettre dans l'ordre. Et peut-être que ça nous invite à voir une chose et à nous convaincre d'une chose, c'est que tout cela, et c'est fait pour aboutir, eh bien, à Pâques. Voilà, et Pâques, c'est pas des histoires d'apparitions miraculeuses ou je ne sais quoi. Pâques, c'est juste la bonne nouvelle de nous dire c'est la vie et la lumière qui triomphent. Et que c'est la vie et la lumière qui doivent triompher, voilà, en fin de compte. Et je pense que toutes ces histoires de Pâques nous expliquent un peu comment ça peut se faire. Alors c'est vrai que, par exemple, dans la Semaine Sainte, il y a une insistance sur la passion, sur la souffrance, sur la mort, sur l'échec d'une mission, sur l'angoisse. Mais en même temps, justement, c'est pour nous dire que Dieu ne nous laisse pas dans le noir, dans la mort, dans la tristesse ou dans l'angoisse, mais il nous amène à voir la lumière de Pâques au-delà de tout ça. Et peut-être que c'est ça la foi de Pâques, c'est de dire même à travers la ténèbre, à travers la mort, à travers le sombre, je veux voir au-delà de ça une lumière qui pointe et qui est celle de Pâques. Et de croire que par Dieu, eh bien, nous ne restons pas enfermés justement dans la passion. Nous ne restons pas enfermés dans l'angoisse de Jésus qui, à Gethsémané, dit lui-même, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il ne nous laisse pas enfermés dans l'angoisse de Jésus dont l'Évangile nous dit qu'il transpirait des caillots de sang. Enfin, c'est pas drôle, quoi. Hein. Et il ne nous laisse pas non plus dans le doute de Jésus sur la croix, le doute apparent, quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais on ouvre le chemin vers autre chose. Et on dit tout cela, c'est des choses anciennes, et en fait, ça doit ouvrir sur autre chose. Il y a une issue possible, on ne reste pas bloqué dans le noir et dans le deuil, mais ça s'ouvre vers Pâques, vers la lumière, vers des résurrections, vers la vie, vers l'espérance, et vers la paix, et qui est la chose peut-être une des choses les plus essentielles. Et donc oui, je trouve que Pâques est vraiment une des plus belles fêtes de l'année, parce que c'est la fête de la vie, de la joie, de l'espérance, et c'est le moment où on se dit, si je dois croire en quelque chose, je veux croire dans la vie, dans la joie, dans l'espérance et dans la lumière. Et plus que cela, ça nous dit que, justement, rien n'est jamais perdu, et que la mort n'est jamais totalement victorieuse. que le découragement, le désespoir n'ont pas lieu d'être, mais que devant nous, il y a de la vie, il y a de l'espérance, il y a de la fraternité et il y a de l'amour. Et ça, il faut vraiment garder en tête Pâques tout le temps, parce qu'il nous arrive de repasser, pas simplement dans la Semaine Sainte, mais par des moments de sombritude. Je ne dis pas ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. On arrive à des moments de deuil, de difficulté, et toujours se dire « je crois dans Pâques, dans la résurrection et dans la vie ». On dit que, vous savez, les protestants réformés comme moi ne sont pas très sensibles au temps liturgique, le temps du carême, de la passion, de l'avent, de machin, etc. Mais on disait du temps de Calvin qu'en fait, Pâques, c'est simple, c'est tous les dimanches. Voilà, donc on fête Pâques tous les dimanches, et tous les dimanches, on se redit, je crois en quoi ? Dans la vie, dans la lumière, dans la joie, dans la paix, dans l'espérance. C'est tout. Et tout cela guidé par un Dieu qui, effectivement, n'est pas étranger à tout cela. Foi en Dieu, de se dire, oui, il y a une puissance de vie qui est là avec moi. Cette puissance, c'est la puissance qu'on appelle le Saint-Esprit, un souffle de vie, un souffle créateur qui a créé le monde et qui aujourd'hui est là pour vous, avec vous, en vous, et vous disposez chacun de cette puissance de ce Dieu créateur qui ne vous laisse pas seul, jeté dans un monde de ténèbres, jeté dans un monde de difficultés, d'épreuves et d'obscurité, mais vous êtes dans ce monde soutenu par une puissance de vie, par un souffle créateur, un souffle vital, essentiel, qui est le Saint-Esprit, et qui peut nous permettre, en toute situation, de pouvoir être vainqueur de toute chose. Et donc oui, vous disais-je, Pâques nous met face à ce renversement extraordinaire en quelques jours. Hein, en quelques jours, voici que vendredi dernier, il y a 48 heures à peine, nous étions à pleurer dans ce temple le drame terrible de la passion du Christ. Et aujourd'hui, nous fêtons la lumière, l'espérance et la joie. Et comment peut-on passer aussi vite d'un côté à l'autre ce retournement incroyable de ce que l'on vit, eh bien, nous dit deux choses, je crois. D'abord qu'il ne faut jamais désespérer quand on est au fond du gouffre. En fait, dans cette Semaine Sainte, on joue un peu à « fais-moi peur », si vous voulez. On se met au plus profond du gouffre, on se dit « ah ah, je suis triste, je pleure, et ça, mais non, ah, il y a Pâques, ben oui ». Vous savez, c'est ce jeu que font les enfants, d'après Freud, qui jettent un objet pour qu'on leur rapporte. Vous savez, on se dit, pourquoi les enfants petits, indéfiniment, jettent un objet pour qu'on le ramène? Et Freud dit, l'enfant joue à se dire, même si mes parents s'en vont, je sais qu'ils reviendront. Et donc, il veut expérimenter ça. C'est vrai, regarde, je jette un objet, je crois qu'il est perdu, mais non, il revient. C'est ce que l'on fait exactement au moment de la Semaine Sainte. Et c'est vrai qu'au moment du Vendredi Saint, on pourrait perdre courage. Et on pourrait même perdre la foi. Et là, je suis touché par pour moi, le plus beau récit de Pâques dans l'Évangile, c'est dans Luc, le récit des disciples d'Emmaüs, qui exprime exactement cela. Et ils disent, après la mort de Jésus, ils sont tout tristes. Et ils disent, voilà, on pensait que c'était lui le Messie et qu'il sauverait Israël, mais voilà, ça fait 3 jours qu'il est mort, et puis plus rien. Donc ils sont dans ce découragement qui pourrait leur faire penser que tout a échoué, et que ce plan extraordinaire de dire « Jésus envoie son messager pour dire une parole de paix, d'amour au monde », voilà que il est le porte-parole de cette parole d'amour est rejeté avec violence, il est tué avec brutalité, et le Christ lui-même, parole d'amour incarné, est crucifié sur une croix comme un malfaiteur, on pourrait se décourager. Mais Pâques nous dit justement, non, attention, on pourrait croire parfois que les choses sont désespérées. On pourrait croire que c'est un échec total et qu'il n'y a pas d'issue, on espérait, mais il n'y a rien, voilà, c'est la mort, le vide total. On pourrait croire que c'est comme ça, mais Pâques, et tout ce merveilleux de Pâques, cet inattendu de Pâques, nous dit, attention, il y a toujours possibilité que les choses tournent autrement que ce que nous pensions. Et c'est vrai que nous risquons nous-mêmes dans notre vie toujours de voir seulement le mauvais côté des choses, où on risque de croire nous-mêmes que une situation mauvaise vécue doivent durer toujours. Mais déjà, nous devons nous mettre en tête que le pire n'est pas toujours nécessairement ce qui va arriver, et que l'avenir lui-même n'est pas écrit ni définitif. Après la pluie, le beau temps. Ben oui, c'est bien de s'en rappeler, mais parfois on l'oublie, hein. Après la pluie, le beau temps. Bon, si je veux le dire d'une façon plus biblique, c'est ce que dit le psaume 126, où il dit « Il sème dans les pleurs, mais il récolte dans la joie ». Il faut se souvenir de ça, toujours garder cette foi de Pâques, que quand on est dans la nuit, eh bien, il y a une lumière possible. Et qu'il faut parfois juste un peu de patience. La nuit ne dure pas toujours, mais il y a le jour qui pointe un moment ou l'autre. Patience. Et que même si on est dans le deuil, on peut un jour retrouver la joie de vivre. Et on peut, comme le Christ, ressusciter soi-même, se relever, revivre, même si c'est pas instantané. Peut-être que là, pour Jésus, l'Évangile nous dit il a fallu 3 jours. Pour nous, pour nous relever, nous ressusciter, revenir à la vie, il faut peut-être 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, je ne sais pas. Mais patience, la nuit n'a pas forcément le dernier mot et la nuit n'aura pas le dernier mot. Voilà. Et c'est vrai que parfois, nous risquons de croire que l'avenir est bouché, tristement déterminé, inéluctable, alors qu'en fait, le meilleur est toujours possible. Et tout ce que nous prédisent un certain nombre d'oiseaux de malheur, en disant, vous savez, l'avenir, ça va être ça, ça va être terrible, etc., eh bien, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tout peut se passer autrement. Il y a toujours une part d'imprévisible, d'imprévu, de nouveauté. Et en tout cas, tous ceux qui prétendent prédire l'avenir, que ce soit des voyants de toutes sortes ou même des prétendus spécialistes qui disent, vous savez, en 2050, 2080, 3000, machin, il se passera ci et ça, ils se trompent toujours. C'est-à-dire les politiciens, les politologues ne savent jamais qui va être élu aux prochaines élections, jamais. Les économistes ne voient jamais arriver les crises, ni les bons moments. Enfin, personne ne voit rien, en fait. L'avenir, on n'en sait rien, c'est tout, voilà. Et rien dans le monde n'est entièrement déterminé. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des moments de crainte, d'angoisse, peut y avoir des moments de deuil ou de tristesse, mais il faut croire, avoir confiance dans l'avenir. Les choses peuvent se retourner, peuvent devenir autrement que ce que nous pensions. Mais il est vrai que le bien que nous espérons n'arrive pas toujours comme nous l'attendons, ou plutôt même, en fait, assez rarement. Et il faut pour ça une grande disponibilité d'esprit pour reconnaître la vie nouvelle qui nous est proposée. Et ça, c'est ce que je remarque aussi dans tous ces récits d'apparition du Christ, c'est qu'en fait, les disciples ne le reconnaissent jamais. Jésus apparaît, coucou, c'est moi, il dit, mais t'es qui, toi? Enfin, personne ne le reconnaît. Ça, c'est étonnant, hein. Ça veut dire que les bonnes nouvelles ou le bien de notre vie, il n'arrive que rarement comme on l'attend. On voudrait, nous, que les choses se passent comme ça. En fait, ça ne se passe pas comme ça, ça nous contrarie 2 fois, mais c'est nous qui sommes idiots. Il y a une bonne nouvelle qui nous est donnée, sachons l'accueillir. Peut-être pas comme on le pensait, autrement peut-être, mais il y a une bonne nouvelle et la vie nous est donnée. Le Christ ressuscité, les disciples ne le reconnaissent pas, même dans ce récit d'Emmaüs que je vous lisais, et il marche avec eux, pourtant il est présent. Alors, c'est pas comme ils espéraient, peut-être qu'ils attendaient une présence physique, corporelle, en fait, il était présent spirituellement dans leur discussion, dans leur réflexion. Et puis au moment où ils croient le saisir, paf, il disparaît. C'est très étonnant. Mais en tout cas, le Christ ressuscité apparaît toujours sous des formes étonnantes, mais pas comme avant aussi. C'est-à-dire que la bonne nouvelle que j'espère quand je suis dans le noir, c'est pas un retour en arrière, si vous voulez, hein. Et le Christ ressuscité n'est pas de même nature que le Christ avec qui il se promenait sur les chemins de Galilée. Il est d'une autre nature. Ça, c'est ce que dit Paul aussi dans ce 1 Corinthiens 15, un chapitre extraordinaire sur la résurrection des corps. Et il dit, alors vous me demanderez, avec quel corps les ressuscités ressuscitent? Il dit, mais imbécile, ils ressuscitent absolument pas de la même manière. On est ressuscité corps matériel, on ressuscite corps spirituel, on est né corps méprisable, on ressuscite corps glorieux. Autre est la chair d'un oiseau et celle d'un poisson, autre est la chair d'un vivant sur terre et la chair d'un ressuscité. C'est complètement autre chose. Et il a raison, c'est autre chose. Et il n'est pas facile dans notre vie d'arriver à accueillir une bonne nouvelle qui n'est pas celle que nous imaginions. Voilà, qui n'est pas celle que nous imaginions. Et je crois qu'une part de la foi, c'est de savoir rester disponible. Ça, c'est vraiment... Même, vous savez, je ne crois pas, en tout cas sur le long terme, à la chance ou à la malchance. Il y a des gens, on ne peut pas avoir toujours de la chance ou toujours de la malchance. Mais la chance, nous disent les spécialistes, c'est ceux qui savent attraper les opportunités quand elles passent. Il y a des gens qui savent faire ça, et des gens qui en sont incapables. Et c'est ça peut-être le sens de ce verset qui me travaille depuis des décennies, et peut-être qu'un jour je prêcherai là-dessus, quand Jésus dit « Veillez et priez ». Veillez et priez, c'est ça, d'arriver à avoir cette vigilance, cette attention permanente, de savoir reconnaître la vie quand elle se présente. Et il dit, le Fils de l'homme viendra comme un voleur au moment de la nuit, quand vous ne l'attendez pas. Et si vous n'êtes pas prêt à l'accueillir, vous serez foutu dehors, vous ne verrez rien du tout. Arriver à recevoir, même au milieu de la nuit, au moment où on ne l'attend pas, cette bonne nouvelle du Fils de l'homme, autrement que ce que j'imaginais. Et si je sais le reconnaître, alors c'est une chose extraordinaire, parce qu'il vient. Heureux celui qui sait saisir cette chance, la vie nouvelle, l'opportunité nouvelle, le cadeau merveilleux qui apparaît et qui est non pas ce qu'il attendait, mais peut-être encore meilleur. Et ça me fait penser à un autre verset de Paul dans Romains où il dit « Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors c'est pas de la superstition qui voudrait faire croire que si on est fidèle, on n'a que des chances dans sa vie. C'est pas ça, hein, mais... Quand on est fidèle, toutes choses peuvent devenir source de joie et de vie dans sa vie. Il faut juste avoir confiance dans cela. Et la foi en Dieu, c'est peut-être, entre autres, d'avoir foi dans l'avenir, foi dans la vie. Voilà. Et c'est vrai que même si je pense à ma propre expérience, je me dis que finalement, dans mon existence, les choses les plus contrariantes que j'ai pu vivre, finalement, ont concouru à me donner peut-être les plus grandes chances de mon existence. Et je me dis finalement, heureusement, que ce n'est pas moi qui serai tout puissant pour choisir le cours de ma vie. Parce que si j'avais été capable de faire ça, j'aurais juste pas eu toutes ces chances extraordinaires que j'aurais jamais pu imaginer, et j'aurais été incapable. Et c'est après coup que je peux dire, mais Seigneur, tu m'as gâté au-delà de tout, et j'ai dit pardon. Parce que quand j'ai cru à un moment donné, j'ai pu croire que tu me battais, mais en fait, tu me donnais la vie. Et cette souffrance que j'ai pu éprouver parfois n'était finalement que comme la souffrance de l'accouchement qui s'oublie lorsqu'elle donne la vie et que l'on dit « oui, c'est pour le bien ». Et même le mal, peut-être qui aurait pu me tuer, finalement a été ma plus grande chance de ma vie. Qui peut savoir? Et donc, confiance. Tout peut mener à la vie et à la lumière, comme Pâques. Encore que quand je dis ça, j'ai un petit doute, là. Ça me pose problème parce que, oui, bon, j'ai eu des petits problèmes, tout va bien, hein, mais il y a quand même des gens qui souffrent au-delà de tout. Hein. Est-ce que vraiment je peux dire que tout mal peut être transformé en bien? Alors, peut-être pas toujours quand même. Il y a quand même des gens qui sont dans des situations franchement épouvantables, hein, peut-être dans des pays éloignés ou ailleurs. Ou alors il faut croire, et finalement je veux m'y accrocher aussi, que ce que j'ai dit est universellement vrai, donc peut-être qu'il existe des compensations célestes. Voilà. Celui qui aurait été torturé, mis à mort sans rien pouvoir faire, eh bien, sur terre il va mourir, bon voilà, égorgé par un djihadiste, mais... Peut-être qu'il sera quand même consolé et grand dans le royaume des cieux, je ne sais pas. Il y a peut-être quand même une forme de compensation de cet ordre-là, je veux y croire. Hein. Compensation qui n'est pas seulement terrestre. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », c'est vrai dans ce monde, et c'est vrai peut-être aussi dans l'autre. Et celui qui meurt en pleurant, peut-être qu'il sera consolé dans le ciel. Donc en tout cas, les deux, je pense, faut croire aux deux, voilà, je pense, indispensable. Mais quand on dit donc dans sa vie « Je ferai ceci, Dieu voulant », c'est pas que Dieu veuille, puisse vouloir ceci ou cela, mais c'est, je crois, cette petite part essentielle d'humilité de dire « je ne prétends pas tout maîtriser dans ma vie ». Donc j'ai un projet, c'est par exemple de prêcher ici même dans ce temple, dans 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, mais on verra. Et je suis prêt à accepter ce qui m'arrive comme venant de Dieu, c'est-à-dire je veux me mettre moi-même dans une sorte de disponibilité capable en toute chose d'adopter, d'intégrer, d'apprivoiser même ce qui m'arriverait et que je n'aurais pas prévu. Et donc j'ai confiance que même au-delà de moi, que tout mal, même apparent, puisse se transformer en bien ou concourir au bien. Et puis l'autre chose à laquelle ça me fait penser, c'est que c'est, je voudrais pas juste dire après la pluie le beau temps, donc sous-entendu ça va s'arranger, un peu de patience, tout ira bien. C'est pas simplement ça. C'est que je crois très profondément que Dieu est une puissance de transformation. Et que il y a aussi dans notre vie un Dieu qui peut transformer le mal en bien, ou plutôt nous aider à transformer ce mal en bien. Donc nous ne sommes pas seuls dans cette attente de la lumière, ou pas seuls à attendre qu'après la pluie le beau temps. Il y a une sorte de synergie entre une puissance spirituelle divine qui est là vraiment et qui peut faire en sorte de nous aider à transformer le mal en bien. Et Pâques, c'est pour moi l'expression la plus éblouissante de cela. La transformation par Dieu du mal en bien, de la ténèbre en lumière. Pâques, c'est étonnant, c'est la transformation de cette situation dramatique, je dirais, de la souffrance, de la mort de Jésus, de l'échec de la mission de son fils. Il vient annoncer, mais vous les uns les autres, on lui dit, va te faire voir, on le met sur une croix. Terrible! Et voilà que Dieu arrive à transformer ça dans une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Mais c'est dingue! Et voilà que la croix, symbole de supplice, de torture, devient pour les chrétiens symbole de vie. Je dirais, mais c'est fou, quel retournement incroyable! Et donc, Pâques, c'est ça, c'est la fête de se dire, je crois que Dieu peut transformer cela, et c'est la fête de la lumière sur les ténèbres, de la tristesse, de la joie sur la tristesse, de l'angoisse de l'espérance sur l'angoisse, de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort. Et Dieu est spécialiste de ce genre de travail. Et l'action de Dieu, je ne crois pas que ce soit tant de créer ex nihilo des choses, de faire des sortes de miracles visibles ou autre chose, mais Dieu, c'est le roi de la transformation. Dieu, c'est le chef qui a l'art d'accommoder les restes, je dirais. Et dans la Bible, Dieu ne fait jamais que ça. Il passe son temps à transformer le mal en bien. Et si vous mettez votre foi en Dieu, vous saurez que toujours le mal peut se transformer en bien et que vous avez à portée de main un Dieu créateur qui a transformé des déserts, qui a fait surgir la vie d'un monde froid et minéral. Et ce Dieu créateur, il est là à votre disposition, vous, dans votre vie terrestre, pour transformer en vous le mal en bien, pour faire surgir en vous la vie, pour faire surgir en vous, dans vos ténèbres, la lumière, et pour mettre dans vos cœurs une parole d'espérance et de paix. Alors vous me direz, au début de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est quand même une création à partir de rien. Eh bien, c'est même pas certain. Vous savez que ce premier verset même de la Bible est très discuté, l'interprétation est très discutée, et même dans la très sérieuse traduction œcuménique de la Bible, il y a quelques années, ils avaient traduit ce verset non pas par « au commencement Dieu créa le ciel et la terre », mais ils avaient dit, ce qui est une traduction possible du texte, « lorsque Dieu commença à créer, la terre était informe et vide ». c'est-à-dire l'idée que Dieu ne crée pas à partir de rien, mais à partir d'un chaos, le tohu bohu, qui est présent là, c'est un mot hébreu qui est là dans la Bible. Et donc au départ, dans cette interprétation, il y a du tohu bohu, de l'absurde, du désordre, et Dieu est montré comme celui qui parvient maître de l'ordre. Il ne va faire que ça pendant 6 ou 7 jours de création. Il va ordonner, arranger, organiser ce tohu-bohu. Et il va faire en sorte que ces masses d'eau informes et menaçantes qui se faisaient face au début laissent place à une création organisée jusqu'à arriver à un paradis merveilleux. Un monde d'une complexité telle que même une créature comme vous puisse devenir un jour vis-à-vis de Dieu, partenaire, interlocuteur. Et ça, c'est absolument incroyable. Et après, toute l'histoire de la Bible, je ne peux pas tout vous refaire, mais voilà, je fais comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs, qui dit, en commençant depuis Moïse jusqu'aux prophètes, il leur montre toute cette merveille de la création de Dieu. Alors, juste continuons, 2 exemples, Joseph. Joseph, le fils de Jacob, envoyé dans sa citerne pour être tué, vendu comme esclave au Pharaon, condamné à mort. Voilà que par une histoire incroyable que vous lirez, il devient premier ministre du Pharaon et c'est lui qui va pouvoir sauver de la famine ses frères et sœurs et son père qui menaçaient de mourir. Et il dit à la fin cette phrase extraordinaire, une des plus belles de la Bible, quand ses frères viennent et se prosternent devant lui en disant « Écoute vraiment, pardonne-nous, etc. » Il dit « Écoutez, il n'y a pas de problème. Ce mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. » Formidable. En fait, Dieu n'arrête pas de faire ça. Il prend ce qui est, ce qui semble être un mal, un manque, et il arrive à en faire quelque chose d'extraordinaire. Et la naissance de Jésus, tenez, incroyable cette histoire. Si on se met du côté de Joseph, Joseph, il est heureux, il a une fiancée mignonne, il est formidable, ils vont se marier, c'est top. La fiancée tombe enceinte, et pas de lui, boum, pas drôle. Et normalement, d'après la loi, il devait la dénoncer au Sanhédrin et le tribunal aurait dû la condamner à mort avec l'enfant. Donc d'une situation mais pourrie de chez pourrie, de tromperie, de fiançailles rompues, de condamnation à mort, d'intransigeance, de tout, Joseph, écoute, conseillé par Dieu, il dit non, attends, d'abord, dénonce pas Marie, on ne va pas la condamner à mort. Première chose, génial. Et ensuite, deuxième façon avec laquelle Dieu lui parle, il lui dit, écoute, Joseph, prends Marie pour femme, adopte le bébé. Et voilà que celui qui aurait dû être condamné à mort par la religion institutionnelle, que je représente un peu aujourd'hui, Joseph qui transgresse la règle de l'époque, Joseph par sa bonté et son écoute de la parole de Dieu, de la situation de mort, de tromperie, de catastrophe sans avenir, va naître celui qui sera le sauveur de l'humanité. C'est dingue, quel retournement! Quel changement, c'est extraordinaire, c'est une des plus belles histoires de Noël, je dirais. Et puis après, je ne sais pas moi, la multiplication des pains, le peuple a faim, ils n'ont que 5 pains et 2 poissons, ils ne s'en sortent pas, c'est pas assez, c'est le manque. Et de cela, Jésus va créer une surabondance qui va permettre de nourrir tout le monde. Jésus fait pas surgir des pains comme ça à partir de rien, mais il va permettre en sorte que Dieu le peu devienne beaucoup. Et toute sa vie, Jésus ne va pas faire surgir des êtres vivants à partir de rien, mais il va remettre en marche, guérir, remettre debout le paralytique, redonner la vue au l'aveugle. Et sans cesse, il montre que ce qui semble mal n'a pas nécessairement une issue catastrophique, mais peut mener au bien. Et tenez encore Lazare, formidable ça, Lazare est malade, et ses sœurs appellent Jésus, et Jésus dit, il lui dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Bon, c'est-à-dire, c'est pas ça le but. Alors, la maladie elle-même, dit-il, elle est pour la vie. Mais quelle vie? Bon, Lazare, finalement, va pas mourir totalement. Il va être plus ou moins réanimé. Il va revivre quelques années de plus. Ça change pas grand-chose, hein. 2-3 années en plus par rapport à l'éternité, c'est pas terrible. Mais il va se passer que dans cette expérience douloureuse, Marthe et Marie vont découvrir quelque chose d'incroyable, la vraie valeur de la vie. Il va dire, ils vont découvrir qu'elle a une force de résurrection et qu'il y a quelque chose d'important qui est la profondeur de la vie éternelle. Et puis donc finalement Pâques, effectivement, vous disais-je, quand on voit ce récit déchirant de la Passion et qu'on en arrive comme aujourd'hui, à la résurrection, à la lumière de Pâques, et qu'on se dit, comme ces pèlerins d'Emmaüs, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu'il marchait avec nous et qu'on ne s'en rendait même pas compte, expliquant les Écritures? Oui, nous étions bien bêtes de ne pas comprendre que par-delà les apparences, par-delà la tristesse, par-delà l'échec, c'était déjà la vie qui triomphait. Et Dieu déjà arrivait à nous amener à la victoire de la lumière et de l'espérance. Donc voilà cette joie immense de Pâques qui est d'affirmer solennellement que la mort n'aura jamais le dernier mot, que la méchanceté, la haine ne seront jamais vainqueurs et qu'il n'y a donc pas à se décourager, qu'il n'y a pas à perdre confiance ou espoir, mais que la vie est toujours possible et que si nous avons Dieu avec nous, dans notre cœur, nous avons au fond de nous-mêmes une force de vie, de résurrection, une force incroyable, et que Dieu est capable, dans nos propres vies, de transformer tout mal en bien, le deuil en une joie, la peur en confiance, et il peut nous donner toutes choses en surabondance, parce qu'avec lui, tout s'ouvre, comme le jour de Pâques, sur la vie. Amen.